Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'ONU salue l'annonce du cessez-le-feu RDC Rwanda et promet son soutien au mécanisme de vérification ad hoc mis en place pour surveiller ce cessez-le-feu. Commémoration de la journée des morts ce 1er août, des milliers de personnes ont inondé le cimetière de Kinkole Nouvelle Cité pour rendre hommage à leurs proches décédés il y a longtemps. Un spectacle désolant vécu cet avant-midi au regard de l'état des tombes dans cette nécropole. Dominique Kasimba, coordonnateur de l'association des cultivateurs de cacao à Kisangani, est notre invité. Sa structure a reçu la visite du ministre de l'Agriculture en séjour à Kisangani. Bonsoir à tous. L'ONU espère qu'un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda va contribuer à une désescalade de tensions. C'est en réaction à l'annonce faite le mardi par l'Angola relative selon laquelle le gouvernement de la RDC et du Rwanda ont convenu à un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur le 4 août. Le mécanisme de vérification ad hoc pour surveiller le cessez-le-feu sera renforcé à cette fin et notre mission de maintien de la paix en RDC, MONUSCO a exprimé sa disponibilité à soutenir ces mécanismes. Conformément à notre mandat onusien, affirme le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York. Peleki Pelamondo.
Selon le porte-parole du secrétaire général, les Nations Unies espèrent que cet accord de cessez-le-feu contribuera à créer les conditions d'une désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda et permettra le retour en toute sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays dans leur foyer. L'ONU dit réitérer son soutien aux efforts menés par le président angolais à travers les processus du Rwanda et encourage les deux parties à respecter leur engagement en faveur du rétablissement de la paix et de la stabilité en RDC. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies rappelle que ce cessez-le-feu doit prendre effet le 4 août à minuit à la suite d'une trêve humanitaire qui n'a été que partiellement respectée. Dans un communiqué, la MONUSCO, qui se réjouit également de l'annonce de ces cessez-le-feu, exprime aussi sa disponibilité à soutenir les mécanismes de vérification ad hoc mandatés pour superviser le respect du cessez-le-feu conformément à son mandat. Rappelons que l'annonce du cessez-le-feu a été faite lors de la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda sous la médiation du numéro 1 angolais João Lourenço à Luanda.
Au Nord Kivu, les hommages aux victimes des bombardements du M23 ont été rendus ce jour au cimetière du Génocoste situé dans le territoire de Nirangongo. Les autorités administratives et coutumières de cette entité se sont donné rendez-vous pour honorer les victimes de cette guerre, notamment les déplacés de Mugunga. Selon l'administrateur du territoire de Nirangongo, cette journée doit interpeller les agresseurs de la RDC. Denise Lukeso.
Le cimetière du Génocoste est situé dans le village Rwanguba, groupement Kibati, en territoire de Nirangongo, rappellera aux Congolais les tristes souvenirs d'une trentaine de personnes déplacées ayant perdu la vie suite au bombardement du M23. C'était en mai dernier dans le camp de Mugunga, personnes qui reposent désormais dans ces mémorials. Dans le cadre des activités commémoratives du génocide congolais ce vendredi 2 août, les autorités administratives et coutumières de Nirangongo ont honoré ces victimes sur place ce jeudi.
La journée d'aujourd'hui interpelle tous les incivils, tous les agresseurs, tant internes qu'externes, en leur demandant de quitter cette voie de l'agression, en leur demandant de ne ménager aucun effort pour changer leur comportement. Non seulement à cela, mais aussi à ceux qui prétendent revenir encore au Congo pour semer la désolation.
3,6 hectares ont été acquis par le gouvernement provincial avec l'appui du Fonarev pour élargir ce terrain qui servira désormais de cimetière pour les Congolais tués au cours de cette guerre. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Dans la province de la Tchopo, on apprend l'arrivée ce soir à Kisangani de la première ministre Judith Suminwa, représentante personnelle du président Félix Tshisekedi à la cérémonie commémorative du génocide congolais Génocoste demain vendredi 2 août. Par ailleurs, la messe programmée initialement cet avant-midi à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Kisangani en marge de cet événement a été reportée pour ce même vendredi. Cette messe est recommandée par le gouvernement dans toutes les provinces du pays. Les jeunes sont-ils prêts à pérenniser les acquis de la MONUSCO après son retrait du sol congolais? Cette question était au centre d'une conférence organisée hier mercredi à Kinshasa par la Synergie des jeunes africains pour la consolidation de la paix et la sécurité. Un rendez-vous qui rentre dans les cadres de la participation des jeunes dans le processus de recherche et du maintien de la paix et la sécurité en RDC. Selon les organisateurs, le but poursuivi par cette série de rencontres est de promouvoir l'implication des jeunes dans le processus de stabilité du pays. Et suivez ce reportage de Miradim Fouengi, rendu par Étienne Lissoumbou.
Invité à cette rencontre, le représentant de la MONUSCO explique les compétences de jeunes pour le développement de la RDC. Charlotte Songhe, coordonnatrice du programme sur les droits de la femme au sein du bureau conjoint des Nations Unies, parle du rôle des jeunes dans le processus de la reconstruction de la RDC.
Les jeunes sont une tranche de la population très importante dans tous les processus et particulièrement celui de la paix. Les jeunes sont des acteurs, que les jeunes soient impliqués à tous les niveaux parce qu'il en va aussi de leur devoir citoyen. Les jeunes doivent être instruits mais aussi éduqués. Ils doivent être informés pour connaître qu'est-ce qui ne va pas.
Tatiana Kabongé, chargée d'activité au Fekis Yoris Club, un cabinet juridique, parle de l'importance de cette conférence et invite les jeunes à s'impliquer.
Les jeunes, nous ne devrons pas être les instruments des politiciens, mais nous devons être les instruments du changement pour notre pays. Et que pour changer ce pays, il faut qu'on se batte non pas sur l'aspect économique ou des différents aspects de la vie, mais sur l'information. Parce que l'information nous amène des opportunités qui pourraient changer notre pays.
Pour Chris Ngal, président de la Synergie des jeunes africains pour la consolidation de la paix et de la sécurité, ce type de rencontre va se poursuivre dans le but de sensibiliser un grand nombre de jeunes.
Le parquet à Kinshasa annonce l'arrestation d'une cinquantaine des jeunes, autrement appelés Force du Progrès, à la suite des événements survenus hier sur l'avenue Uvira et à la résidence de l'ancien président Joseph Kabila dans la commune de La Gombe. Un procès en flagrance doit en principe avoir lieu à leur siège de la DGC à Binzaozon, probablement demain vendredi. Par ailleurs, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe dit avoir libéré hier soir le journaliste Joël Kadendanga qui était arrêté dans le cadre du dossier relatif au concert de l'artiste de gospel Mike Kalambay. Le parquet poursuit son instruction avec l'artiste Aristote Nzuzi, directeur technique de la société Majabu Gospel. Selon le parquet, le rôle du journaliste dans le concert du 27 juillet dernier s'était limité à la communication et la publicité et que seule la société Majabu était l'organisatrice du dit concert qui a produit Mike Kalambay. D'après toujours le parquet, Majabu accepte de prendre en charge les victimes de ce concert, notamment 9 morts et plusieurs blessés. Au Nord Kivu, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS bénit salue l'accompagnement de la MONUSCO dans ses différentes actions menées dans la zone. D'après Maître Omar Kavuta, son chef d'antenne dans la région de Beni, cet appui de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a sensiblement contribué à la réussite et à l'opérationnalisation du projet pilote de réinsertion communautaire des ex-combattants pour la stabilisation de cette partie de la province. Qui a redoré l'image non seulement du PDD-RCS, mais aussi de la MONUSCO dans la région. Maître Omar Kavuta le dit au micro de Grévis Salomon.
Le PDDRCS témoigne des efforts de la MONUSCO pour son opérationnalisation. Les antennes PDDRCS, Beni, Lubero, sont parmi les antennes les mieux cotées de la République et en grande partie, c'est grâce au soutien de la MONUSCO dans la zone qui n'a pas lésiné pour mobiliser le moyen afin que le PDDRCS et dans cette approche communautaire soit effectif. Ce que le PDDRCS voudrait dans le cadre du partenariat. Toutes les sections substantives de la MONUSCO ont été mobilisées autour du PDDRCS, matérialisant ainsi le vœu du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné le mandat à la MONUSCO, outre la protection des civils, à soutenir et accompagner le PDDRCS. La MONUSCO a contribué à donner cette image positive vis-à-vis de la communauté et vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de tensions entre la communauté de Beni contre la MONUSCO.
En Ituri, des habitants des quartiers Bakungulu à Kasani et Bigo saluent l'apport de la MONUSCO pour la construction d'un grand pont qui sera jeté sur la rivière Ngezi, reliant les deux entités. Cet ouvrage, selon les bénéficiaires, va renforcer non seulement leur cohabitation pacifique, mais va faciliter également la mobilité aux éléments de la police et de l'armée pendant les patrouilles pour leur sécurité. Le gouverneur de province et le chef de bureau de la MONUSCO ont visité les travaux en cours de construction de ce pont. Reportage Martial Kizabiamungu.
C'était tout un calvaire pour les habitants de Kanyasi et Bigo de traverser la rivière Ngezi, surtout à la période pluvieuse. La petite passerelle qui servait de pont pour les passages de la population s'est trouvée déjà dans un état de l'abri très avancé, ce qui avait causé la mort dans les passés d'une femme enceinte. Sur demande des autorités provinciales, la MONUSCO a amorcé les travaux de la construction d'un nouveau pont tout en déplaçant le lieu de la rivière Ngezi. La notabilité locale salit cette intervention de la MONUSCO ensemble avec le gouvernement provincial qui, selon elle, va limiter les risques d'accidents déjà enregistrés sur cet endroit dans les passés. Lebiliabo Florimont, chef du groupement Badiaboulo.
Merci les autorités en nous construisant ce pont ici qui va beaucoup nous aider. Nous sommes vraiment très reconnaissants.
Pour lutter contre la criminalité dans cette contrée qui sera plus fréquentée après la fin des travaux, les chefs des bureaux de la MONUSCO promet d'y installer l'éclairage public. Les gouverneurs des provinces rassurent qu'un poste de la police sera érigé assilié pour sécuriser davantage la population. Le lieutenant général Johnny Lubuyakashama.
Nous allons aussi travailler ensemble pour mettre un poste de police dans un de ces endroits ici pour sécuriser davantage le quartier.
Ces travaux seront exécutés pendant 3 mois avec un coût évalué à plus de $50,000 américains. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
La journée du 1er août 2024 dédiée aux morts a été bel et bien célébrée à Kinshasa. Des centaines de milliers de personnes ont inondé le cimetière de Kinkole et Nouvelle Cité pour rendre hommage à leurs proches décédés il y a longtemps. Ce sont plus des parents qui ont laissé leur dans la tristesse perpétuelle, une tristesse à laquelle s'ajoute un spectacle désolant vécu à ce cimetière. Des détails avec Askinzik Biataero qui nous fait vivre l'ambiance de cette journée au cimetière de Kinkole.
Cimetière de Kikole en ébullition, difficile de se contenir, devoir de mémoire oblige, de nombreuses familles accompagnées de enfants sont venues honorer le parent décédé. L'atmosphère témoigne que les morts ne sont pas morts, mais les hommages rendus y ont été émaillés de regrets pour la famille Sassichobo.
Désolé, pourquoi? Parce que j'ai trouvé la tombe qui n'est pas en bon état. On a détruit des espaces qui sont à côté de lui. Nous sommes obligés de revenir encore pour reconstruire cette partie-là qui est vraiment détruite.
D'autres familles remplies de chagrin s'en remettent aux autorités vu l'état des cimetières.
Le cimetière est en état de délabrement. Le gouvernement doit, je ne sais pas s'il y a une structure organisée pour l'entretien du cimetière. Je ne pense pas. En tout cas, l'État doit faire un effort sur ce point-là.
Ce spectacle désolant s'est amplifié par des témoignages selon lesquels de nouvelles tombes sont construites sur les anciennes sans l'autorisation des familles victimes. Par ailleurs, c'était aussi au cimetière une opportunité pour les enfants de réfléchir sur le bienfait de vivre avec leurs parents et de voir l'importance de leur apport dans la vie quotidienne.
Célébration également ces 1er août de la fête des parents. Au Sud Kivu, Radio Okapi a visité quelques familles où les enfants vivent aux côtés de leurs parents. D'autres sont orphelins. Ces derniers regrettent avoir perdu tôt leurs parents et les conséquences qui en découlent. Reportage à Bukavu de Rachel Kessimbangu.
Qui dit 1er août dit parents. Pour certains enfants, jeunes rencontrés et qui se sont exprimés à notre micro, avoir des parents qui se sacrifient pour le bien-être des enfants est une grâce et une motivation. C'est le cas de Bénédicte.
Je peux dire que mes parents ont beaucoup sacrifié pour que je sois là où je suis actuellement. Avoir des parents responsables, c'est vraiment quelque chose de particulier, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des parents aussi comme moi, mais qui ne sont pas responsables, qui n'ont pas su au fait assumer, être à la hauteur des responsabilités qui leur incombent. Pour les 1er août, à tous les parents responsables, je les souhaite une bonne fête de parents, que Dieu les bénisse en tout cas. pour tout ce qu'ils ont pu faire pour éduquer, élever. Et merci beaucoup parce que ce n'est pas toujours facile pour un parent aussi de faire de son mieux.
Cependant, d'autres enfants ayant perdu leurs parents ne savent comment s'y prendre en ce jour. Fête, deuil, ils se posent la question. Marie Moiti, jeune fille de son état, nous en parle.
Pour nous qui avons perdu des parents, c'est difficile de voir cette fête se passer juste comme ça sous nos yeux. On se demande, est-ce que nous devons vraiment écrire sur nos statuts joyeuse fête des parents, ou soit écrire RIP, écrire un texte qui prouve que nous sommes tristes parce que notre papa, notre maman n'est plus en vie. Ça fait en tout cas mal d'avoir cette partie qui manque.
Dans cette ronde, nous avons également rencontré Rolande Barouti, orpheline, enfant et mère. Elle aussi nous a partagé son histoire avec ses parents. Elle demande à ceux qui ont encore les leurs de veiller sur eux.
J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans et ma mère nous a élevés, moi, avec mes 3 aînés. Vraiment, elle est très exceptionnelle pour nous parce qu'elle est notre héroïne. Elle m'a appris la force, le courage, la résilience. Et elle vendait des médicaments. Elle avait sa pharmacie ambulante. Elle marchait tout Bukavu pour chercher le client. Donc elle a joué les deux rôles, des papas et des mamans. Nous, on l'appelait Mapa, parce que maman, papa. Oh, je demande à tous ceux qui ont encore leurs parents de veiller sur eux. Quoi de mieux de voir sa mère ou son père à côté de lui? Moi, j'ai déjà 4 enfants, mais souvent ma mère m'apporte des choses. Je me demande, mais ça c'est pour mes enfants? Il me dit, oui, mais te donne d'abord toi, parce que c'est toi mon enfant. Et puis toi aussi, tu vas donner à tes enfants. Et ça, c'est un amour exceptionnel.
Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Russie et les Occidentaux se sont accordés sur un grand échange de prisonniers qui comprend notamment la libération du journaliste américain Evan Gerskovitch, condamné et détenu en Russie, ont annoncé ce jeudi des médias américains. CNN rapporte qu'outre le journaliste du Wall Street Journal, détenu depuis mars 2023, la Russie et les États-Unis se sont entendus sur la libération d'autres Américains.
L'invité.
Dans la province de la Chopo, parmi les entreprises visitées par le ministre de l'Agriculture, figure notamment l'association de cultivateurs de cacao. Qu'attendent les membres de cette association du ministre de l'Agriculture? Pour en savoir plus, nous recevons Dominique Kassimba, coordonnateur de cette association. Il s'entretient avec Jacques Nkonkole.
Dominique Kassimba, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Comment peut-on expliquer cette visite du ministre de l'Agriculture dans votre entreprise?
On a reçu le privilège aujourd'hui d'être visité par le ministère de l'Agriculture à travers le ministre d'État chargé de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il nous a visités dans le cadre de notre alliance productive.
Parler d'une alliance, c'est quoi cette alliance productive?
L'alliance productive, c'est une union entre une organisation paysanne et une entreprise locale. Donc nous avons l'union des producteurs ou la coopérative des cultivateurs des cacao de la Chopo, qui sont un mariage d'intérêts entre guillemets avec l'entreprise Docas, qui est dans la transformation du cacao et la transformation des maïs. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu ce privilège aujourd'hui d'être visité par le ministre.
Quelles sont alors les impressions du ministre au terme de sa visite?
Il nous a encouragé, c'est ce que nous faisons, parce qu'on travaille sur un projet du gouvernement à travers les projets PSVD, les projets de la mise en valeur des zones de forêt dégradée. C'est un projet qui est chapeauté par le ministère de l'Agriculture. Et nous avons fait le projet pilote l'année passée. Comme vous l'avez suivi, tous les projets pilotes qui ont été faits dans ce cadre, notre alliance est productive, donc la coopérative des cultivateurs de cacao de la Chopo et les établissements d'Ocas se sont qualifiés parce que sur les assignations qui nous ont été soumises de faire 380 hectares, nous en avons fait 415. Donc on a dépassé même ce qui nous a été demandé. Et on est venu nous encourager d'abord par rapport à ce qui a été fait l'année passée.
Que comptez-vous faire au cours de cette année dans le cadre de ces projets PSD?
Et cette année, nous projetons de faire autour de... Le ministère nous a confié, en fait, le projet nous a confié 880 hectares, mais nous comptons faire 1000 parce qu'au départ, c'est pour augmenter et booster la production du cacao dans la Chopo et indirectement la production du cacao au Congo. Alors, on a besoin que le ministère puisse continuer à nous accompagner comme c'est déjà fait.
Dominique Kassioura, quel genre d'appui souhaitez-vous avoir du gouvernement congolais à travers le ministère de l'Agriculture?
On a besoin tout des formations et surtout aussi de l'amélioration de la qualité des transformations de nos produits, parce que nous sommes aussi dans la transformation agricole à travers la semoule de maïs que nous transformons avec le maïs que nous produisons avec le paysan qui nous sont revendis et que nous transformons pour le mettre au marché. Et dans l'entretemps, une partie de notre production du cacao est transformée. Mais il faut reconnaître que nous sommes juste au début de la transformation et qu'on a besoin de l'accompagnement du gouvernement congolais à travers le ministère à améliorer cette transformation pour rendre la qualité de notre transformation compétitive au niveau international. C'est ce que nous avons demandé, que le ministère puisse réfléchir comment on peut nous accompagner dans ces cadres-là d'amélioration de la qualité de transformation du cacao, soit par des formations, soit par l'accès au crédit à travers le banque à des taux préférentiels. Ce que nous attendons, nous allons développer ça avec le ministère, avec son équipe.
Comment le ministre a-t-il réagi?
Je pense qu'ils sont dans les processus d'accompagnement, parce que les projets que nous faisons, c'est déjà un accompagnement de l'État congolais à travers son ministère, d'abord. Et puis, donc, ce que nous demandons, c'est d'améliorer ou bien d'augmenter les gammes d'accompagnement. Donc, le gamme d'accompagnement que nous demandons, au niveau de la production, nous avons déjà la sérance. Notre coopérative, cette année, va passer de 400 hectares à 1500 hectares, grâce à l'appui du gouvernement, à travers ses partenaires l'AFD, CAFI et Fonared. Mais dans l'entretemps, nous voulons aussi que l'État congolais, le ministère, qui a un bureau d'industrie et de transformation agricole, puissent aussi mettre l'œil sur ce que nous faisons dans la transformation et permettre à son amélioration. Et sur ces points-là, le ministre est d'accord. D'ailleurs, il nous a promis de nous mener en formation des transformations à l'extérieur du pays pour voir ce que les autres font et si nous pouvons aussi, à travers cette connaissance aussi, améliorer notre propre transformation locale.
Dominique Kassioua, merci.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal, coordonné par Jude Bilanda et l'équipe est là, mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Merci de l'avoir suivi.